Chapitre 53. À Genève. 2/5. Jusqu'au mois d'avril qui suivit le meurtre, personne n'était au courant de cette découverte, nous expliqua Sagamore. Hormis une poignée de collègues des brigades criminelles des polices du Valais de Genève tenues au secret. Christina était la première personne à qui je m'en suis ouvert directement. Il faut dire qu'elle m'a bien aidé à y voir plus clair. Sagamore avait préparé une pile de documents à notre intention. Il les étala sur sa table pour que nous puissions les étudier. « C'est le dossier d'enquête sur le meurtre ?» demandai-je. Le lieutenant Sagamore acquiesça. « À regarder uniquement. Vous ne pouvez rien emporter et je ne vous ai rien montré. » Il y avait parmi les documents des photos de la maison des Ebesner et d'une pièce dont la vitre avait été cassée. « Il s'agit du cambriolage qui a eu lieu chez les Ebesner 2 jours avant le meurtre, c'est ça ?» interrogea Scarlett. « Oui. Comment êtes-vous au courant ?»« Nous avons parlé à la voisine des Ebesner, » répondit Scarlett. « Mais revenons à votre enquête. Vous nous disiez qu'en avril, soit 4 mois après le meurtre, vous n'aviez aucun élément probant. » Du moins très peu. Et une piste, ou un suspect? Et surtout une intime conviction. L'assassin avait percé la double identité des Jean-Bénédict Hansen. Et quand vous dites assassin, vous pensez à quelqu'un en particulier? Macaire et Besner. Pendant le grand week-end, il découvre que Jean-Bénédict Hansen est en réalité Tarnogol, et qu'il est manipulé par lui depuis 15 ans. Il comprend alors que c'est son cousin qui s'oppose à son accession à la présidence. Il décide de l'éliminer, faisant d'une pierre deux coups. En tuant Jean-Bénédict Hansen, il tue aussi Signor Tarnogol. Nous avons techniquement affaire à un double assassinat qui met le conseil hors d'état de nuire, le membre restant du conseil, Horace Hansen, n'étant pas un homme de grand caractère. Macaire et Besner sait que la présidence et la banque sont à lui, à condition qu'il se débarrasse de son cousin. Alors cette fameuse nuit du 15 au 16 décembre, il passe à l'action. Il lui suffit de sortir de sa chambre et d'aller frapper 3 portes plus loin. Lorsque l'occupant lui ouvre, il tire 2 coups de pistolet et retourne dans sa chambre à quelques mètres de là. Même si on l'entend, même si quelqu'un sur l'étage se réveille et sort dans le couloir voir ce qui se passe, il aura déjà eu largement le temps d'être retourné dans sa chambre et de croquer un somnifère comme tous les soirs. Solide alibi, qui sera confirmé par son médecin ensuite. L'arme utilisée pour le crime ? Certainement achetée à un particulier sans la déclarer, comme le font régulièrement de très nombreux citoyens suisses modèles. Macaire indiquera d'ailleurs spontanément à la police qu'il est propriétaire d'un revolver déclaré, se prêtant même volontiers à une expertise, jouant les naïfs pour mieux tromper son monde. Alors qu'il est un tireur expérimenté. Je le sais car j'ai découvert qu'il s'entraînait régulièrement dans un stand de tir de la campagne genevoise. On frappa à la porte du bureau. C'était un inspecteur qui devait s'entretenir d'une affaire urgente avec son supérieur. « Si vous voulez bien m'excuser un instant, » nous pria Sagamore. Il disparut dans le couloir avec son collègue. Scarlett attrapa aussitôt son téléphone portable et se mit à faire des photos des documents sur la table. « Vous êtes folle !» l'arrêtai-je. « C'est interdit de faire ça !»« C'est une mine d'or, l'écrivain !» Sagamore nous l'a dit et ne nous laissera jamais une copie de ce dossier. « Dépêchez-vous, aidez-moi ! Prenez des photos de tout ce que vous pouvez ! Chacun une pile !» J'obéis. C'était l'occasion jamais d'obtenir des informations cruciales sur l'enquête.